8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. Partout dans le monde, les épiceries de quartier font de la résistance face à l'explosion des grandes surfaces. En France, une commune rurale sur deux n'a plus de commerce de proximité. Quand l'épicerie du village met la clé sous la porte, les premiers pénalisés sont les personnes âgées. Car les épiceries sont aussi des lieux de sociabilité, de convivialité. Au Japon, on les appelle les konbini. Ces supérettes ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y en a à chaque coin de rue et on y trouve de tout à boire, à manger, avec Wi-Fi gratuite. Comment expliquer le succès des konbini chez les Japonais et ailleurs dans le monde? Comment l'épicerie de quartier résiste face aux supermarchés? On en parle bien sûr avec vous qui nous écoutez et notre invité. Bonjour Jérôme Schmitt.
Bonjour.
C'est vous qui nous avez inspiré ce sujet. Vous êtes journaliste, éditeur, documentariste, auteur du livre La vie konbini aux éditions Les Arènes Caumont. C'est à la fois un récit de voyage et de rencontre, on va en parler. Et puis vous nous direz surtout en quoi le konbini fait partie de la culture nippone, comme vous l'écrivez, au même titre que les temples, les sanctuaires et autres cantines de nuit. Vous, vous êtes un passionné du Japon. Combien de voyages là-bas?
Je ne sais pas, je ne les compte plus, mais je pense qu'on est au-delà de la centaine largement.
C'est plus que l'amour. Hein. Et vous y vivez la moitié du temps,
oui,
c'est ça?
J'y vais à peu près tous les mois. Ouais.
On sera également avec Charlie Dupiot pour un reportage de l'épicerie Votre Marché. Là, on est en région parisienne, à Issy-les-Moulineaux. Son employé Jamel rêve d'ouvrir son épicerie à lui pour être plus libre, comme il dit. Et puis on sera également en ligne avec Pascale Gricolas, c'est la correspondante de RFI au Québec. Là-bas, les petits commerces de proximité portent un joli nom, on les appelle les dépanneurs. Et puis bien sûr, on attend vos témoignages à vous au 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins, c'est sur RFI.
Aujourd'hui, on découvre le monde fabuleux des dépanneurs japonais, les konbini. Ici, à tous les coins de rue, les konbini occupent une place particulière dans le quotidien alimentaire japonais. On y trouve de tout, fruits et légumes, hot dog, ketchup, moutarde et une gamme infinie d'aliments frits et croustillants.
Oh, wow.
Parmi les items les plus populaires, on trouve l'onigiri reconnaissable à sa forme triangulaire. Une poignée de riz garnie d'une farce salée, l'item est souvent enveloppé d'une feuille d'algue qui demeure croustillante grâce à l'emballage ingénieux. Ta-da! Autre item populaire, le sandwich aux œufs ou la perfection incarnée du sandwich pas de croûte. Que ce soit sous forme de garniture simple ou celle d'une omelette, les œufs sont trouvés en deux tranches de pain au lait japonais.
Wow. On dirait un nuage. C'est bon.
Finalement, les nouilles instantanées, un classique. La plupart des konbini offrent un espace où on peut manger son repas rapido et l'agencer avec tout ce qu'on veut. Poitrine de poulet, sauce bolognaise, peut-être un œuf bouilli, bonne idée. Allons-y pour l'œuf bouilli et pourquoi pas quelques légumes marinés pour dire à ma mère que j'ai mangé santé. Bon appétit!
J'ai mangé santé. Extrait d'un reportage de la chaîne YouTube Mordi, c'est une plateforme gourmande Radio-Canada hein, dans un konbini japonais. Alors forcément, Jérôme Schmitt, même sans l'image, ça vous a ramené, ça vous a rappelé des souvenirs gustatifs ou pas
Alors pour être tout à fait honnête, moi je mange assez peu souvent des konbini, mais j'y accompagne souvent mes amis parce qu'il y a des gens qui voyagent au Japon ne mangeant qu'uniquement là-bas. En sachant que chaque marque, chaque enseigne, chaque enseigne a ses spécialités, à la fois culinaires, à la fois de boissons, à la fois de vêtements, etc.
Avec Wi-Fi, toilettes, c'est multiservice. Hein.
Alors c'est multiservice et en fait il y a un truc tout bête au Japon, il n'existe pas de poubelle dans les rues. Et les konbini servent de poubelle à tous les gens qui passent. Et souvent, la première fois on y rentre quand on est touriste, c'est juste pour jeter ce truc qu'on avait depuis 3 heures. Et donc, on commence à se débarrasser.
Dans la poche. Vous nous rappelez dans votre livre que c'est une création américaine et pas nippone, en fait.
Alors, le konbini en soi, c'est une création nippone, mais c'est de l'importation de franchises américaines, puisque la plus grosse chaîne de konbini, c'est 7-Eleven. Qu'on connaît aux États-Unis depuis des dizaines d'années, et Family Mart, qui est aussi une franchise américaine. Mais les Japonais, en fait, se sont accaparés cette marque et l'ont totalement transformée et ont créé le Combini qui n'a rien à voir avec son équivalent américain.
Alors, donnez-nous des images, à quoi ça ressemble, même si elles sont toutes différentes. En quoi c'est pas tout à fait un supermarché, un commerce de proximité un peu quand même. À quoi ça ressemble quand on ouvre la porte?
Ce que vous disiez en introduction, c'est intéressant, c'est qu'en fait, les Combini, c'est pas de la résistance au supermarché, c'est des micro-supermarchés qui ont pris la place, un maillage quotidien, un maillage social, un maillage urbain qui est très proche des gens.
Oui.
C'est-à-dire qu'on l'a la plaisanterie, c'est de dire qu'il y a plus de Combini au Japon que de sanctuaires et de temples réunis.
Ah bon ?
Donc on en compte plus de 50 000 dans tout le pays. Et ces franchises-là, elles ont à la fois une direction artistique, visuelle, sonore, qui est très identitaire. C'est-à-dire que quand vous rentrez même les yeux fermés dans un 7-Eleven, vous savez que vous êtes dans un 7-Eleven parce qu'il y a une mélodie qui retentit. Il y a les sons de la caisse qui sont différents que de celui du Family Mart, du Seiko Mart, de toutes les autres marques. Mmh. Visuellement, pareil, c'est à chaque fois du tricolore avec des néons très blancs. Il y a la clim qui tourne à fond. Il y a les odeurs qui sont un peu exacerbées, les odeurs de friture, pour attirer les gens selon les périodes de l'année et la nourriture qu'on y propose. Donc, c'est vraiment quelque chose qui roule, quoi. C'est un truc... En fait, on est chez soi immédiatement. Moi, ça me rappelle, je viens un peu du monde des casinos. J'ai vécu à Vegas longtemps. Si vous m'emmenez dans un casino dans le monde entier, je vous dirais, il y a un parfum de casino. Ben là, ouais, il y a un parfum de Combini.
Ouais, c'est drôle, ça, parfum de Combini ou de casino. L'angle, hein, c'était pour vous de revisiter un petit peu le Japon, enfin, en tout cas de nous faire profiter de ce Japon-là à travers les Combini. On le disait, est-ce que c'est vraiment un lieu de convivialité, de passage? Est-ce qu'on y croise des vieux, des jeunes, en fonction de l'heure? Parce que c'est vraiment ouvert 7 jours sur 7 et 24 sur 24.
Hein. Ouais, de manière très globale, il y a des exceptions, c'est effectivement 7 sur 7, 24-24, 365-365. C'est le lieu de mixité sociale par excellence au Japon. Je crois que la moyenne de passage dans les Combini par jour est de plus de 3 fois par japonais. Donc c'est la preuve que tout le monde s'y croise. C'est très lissant socialement. À la pause de midi qui va de 11h à... Elle dure 5 minutes, mais les gens peuvent y aller de 11h du matin à 13h. Il y a tous les salariés, c'est-à-dire les employés, femmes et hommes de toutes les entreprises. Les personnes âgées, ils voient une sorte de... c'est en bas de chez eux, donc ils peuvent vraiment avoir ce qu'ils veulent. Les gamins passent acheter ou lire des mangas sur place, comme nous, à notre époque, on faisait à la Fnac ou des choses comme ça. En fait, c'est un lieu qui n'oblige pas à la consommation. C'est-à-dire, comme le disait la correspondante québécoise, on peut s'asseoir dans un coin, réchauffer sa nourriture et la manger. Personne n'ira vérifier que c'est la nourriture que vous avez achetée là. Si vous voulez utiliser les toilettes, utilisez les toilettes. On ne vous demandera pas de prendre un jeton, etc. Voilà.
Enfin, dans si vous les bistrots parisiens, oui,
voilà, c'est gentil
voir,
ça. Ouais. Donc voilà, il y a quelque chose qui est à la fois ultra standardisé. Comme je vous dis, c'est des mini supermarchés vraiment ultra larges en termes d'offres, parce que là on parlait de la nourriture, mais c'est aussi de la vente de vêtements, de la vente de produits, de la vente de services. On peut y payer ses impôts, on peut envoyer des bagages d'une ville à l'autre, on peut envoyer ses colis, on peut faire une multitude de choses. Et donc en fait, c'est devenu un nœud social de plus en plus prégnant dans tous les quartiers où justement les commerces vieillissants ont disparu.
Ça reste pas cher aussi? Est-ce que ça attire aussi une clientèle plus populaire ou...
Oui, c'est pas cher du tout. Il n'y a rien qui est luxueux, ça, c'est sûr.
Ouais. Alors, vous nous emmenez, Jérôme Schmitt, à travers votre livre, dans différents Combini. À un moment donné, on se retrouve dans un quartier assez malfamé, proche de Tokyo, là, avec les vieux, les anciens, les anciennes qui viennent s'y retrouver aussi, autre rapport au temps.
Alors, c'est pas malfamé obligatoirement, Tateshi, mais c'est un quartier très populaire, en tout cas. En fait, Tokyo, on connaît ce qu'on appelle la Yamanote, c'est-à-dire cette ligne circulaire de métro qui entoure le centre de Tokyo et qui occupe 95% des voyages des gens qui y passent. Et en fait, en connaissant la ville, en l'arpentant, en allant chercher un peu plus loin, on se rend compte que Tokyo, c'est 23 districts, et 23 districts qui vont très à l'est et très, très, très à l'ouest, jusqu'à la montagne, jusqu'à la campagne, jusqu'à la mer. Tateshi fait partie de ce qu'on appelait la ville basse, c'est-à-dire la ville la plus populaire de Tokyo, qui est donc à l'extrême est. Et Tateshi, ça a été une ville après les années de guerre, en fait, qui a été déclarée Blue Line, c'est-à-dire une sorte de quartier rouge pour les soldats américains et aussi pour les femmes de petite vie qui vivaient là-bas, comme on dit malheureusement. Et Tateshi n'a pas bougé. Ça fait 70 ans que c'est à peu près dans le même état, sauf que les promoteurs immobiliers y voient un peu un intérêt. Et en fait, dans ce livre, je raconte l'histoire d'une ancienne femme de compagnie japonaise d'après-guerre qui a son bar. Elle est habillée comme Betty Boop, donc c'est son surnom dans le quartier. Et elle est vraiment habillée comme elle, elle a 80 ans quand même. Et elle a un petit bar de quartier, comme il y en a des milliers et des milliers au Japon, où elle sert des oden, qui sont des sortes de pot-au-feu japonais maison, et où chaque jour, elle ouvre à 18h, et chaque jour, elle a les vieux du quartier, mais même des jeunes qui viennent voir, une sorte de mixité d'âge et de passage de témoin un peu social. Et puis, comme toujours dans ces quartiers, il y a les pelleteuses qui arrivent, il y a ces petites maisons de bois qui sont détruites. Et elle, du jour au lendemain, elle se retrouve à regarder autour d'elle, à se lever le matin, et elle va devant son bar, mais il est détruit. Enfin, ouais, elle le sait, ça. Mais... Ouais. Et puis, en fait, elle se rend compte que le seul lieu de mixité sociale qui reste, c'est à la fois le Combini, qui a été ouvert à 50 mètres de là, qui n'existait pas avant, à côté de la gare, et aussi un fast-food, un McDonald's, tout bêtement, qui sont maintenant les deux seuls lieux de convivialité.
Ouais.
Et donc, elle s'installe là, et puis elle se rend compte, en fait, elle recrée ces moments de convivialité avec tous les gens qui passent. Et c'est comme si elle tenait un peu table ouverte, mais dans un combiné.
Les combinis sont tenus à la fois par des hommes, par des femmes, des immigrés, comment on les appelle ? C'est des indépendants
Alors, c'est pas du tout des indépendants, c'est vraiment c'est ce qu'on dit aux États-Unis des Mac-jobs, hein, c'est vraiment le salaire plancher du Japon. Il y a énormément d'immigrés pour deux raisons. Déjà, c'est énormément d'immigrés. Je pondère par rapport à ce que je dis, puisque au Japon, l'immigration est très, très, très contrôlée. Et quand on ouvre l'ouverture à l'immigration, c'est très souvent pour justement donner ces jobs dont personne ne veut. Mais il y a beaucoup d'immigrés parce que c'est très pratique d'avoir des gens qui parlent anglais. Dans les lieux touristiques, dans les gares, alors que la population japonaise peu diplômée parle quasiment pas anglais. Donc en fait, le fait d'accepter des gens qui viennent souvent d'Asie du Sud-Est, qui viennent aussi d'Inde, du Pakistan, permet en fait d'être beaucoup plus fluide avec les étrangers, tout en sachant que le langage combini qu'on impose à l'employé...
Le langage combini ?
En fait, un employé de combini, il réfléchit et il répond par une sorte d'arbre de choix. C'est-à-dire, il voit quelqu'un, il lui dit toujours la même phrase.
Si.
La personne va lui demander quelque chose, il a un arbre de choix. C'est binaire, en fait. Et en fait, apprendre le langage combini pour un étranger qui ne parle pas un traître mot de japonais, ça va lui prendre une semaine.
D'accord.
Mais il ne parlera pas japonais. Mais par contre, dans le combini, personne ne s'en rendra compte.
Ouais. Et donc, le dernier mot du combini, quand il vous dit au revoir, c'est quoi ? Il y a un langage
Alors, moi, je ne connais même pas le langage combini. Mais oui, bien sûr. Ouais. Tout est vraiment rythmé. Et ça fait partie aussi de l'habillage sonore de la ville japonaise. C'est vraiment quelque chose... c'est très étonnant pour ça.
La vie au combini, on continue à se balader dans ce Japon-là. Et puis, on parlera aussi des épiceries de quartier du monde entier après la chanteuse d'origine haïtienne Moonlight Benjamin avec le titre « Oh là-haut » sur RFI.
Oh,
Moonlight, Benjamin sur RFI, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans 8 milliards de voisins et de voisines. On parle des épiceries de quartier un peu partout dans le monde avec notre invité Jérôme Schmitt, journaliste, éditeur, auteur du livre La vie combinée aux éditions Les Arènes Communs. Et puis bien sûr, vous qui nous écoutez, dites-nous si vous allez souvent dans des épiceries de quartier. Justement, Emiliana de Guinée équatoriale nous a laissé un petit message vocal.
Ici chez nous, c'est Afana. Ils sont essentiels et très nécessaires et ont l'avantage de proximité, le plus souvent ravitaillés par les mêmes supermarchés. Tu peux envoyer et retirer de l'argent sans recourir des distances pour la banque qui, le plus souvent, ici chez nous, est pleine de tracasseries et de files d'attente. Dans ces Afana, on achète un peu de tout. Et même des matériaux de construction. Les négatifs, du coup, la ville ressemble à un grand marché. Merci.
Eh oui, la ville qui ressemble à un grand bazar ou un grand supermarché, c'est le cas avec tous ces combini au Japon, notamment à Tokyo ou pas ?
Non, parce que l'espace urbain est organisé de manière telle que déjà, prenons l'exemple de Tokyo, il y a des énormes avenues. Mais c'est quand même 90% du temps des mini-rues, en fait. Et en fait, dès que vous décrochez d'une avenue où il y a ces combini, vous êtes totalement ailleurs.
Tokyo, la verticale. Un autre message d'une voisine, c'est Dean, qui nous laisse un petit message de Libreville au Gabon.
Au Gabon, les boutiques de proximité sont communément nommées le Malien. Ce sont de petites épiceries de quartier tenues principalement par des Maliens et des Sénégalais. Donc on y trouve des produits de grande surface. La seule différence se trouve au niveau des marques. On peut y acheter du pain frais, livré le matin dès 6h30 et le soir dès 15h. Du papier hygiénique, de l'huile, des sodas, des boîtes de conserve, des déodorants, du lait de corps, des yaourts. Donc souvent il y en a qui revendent des aliments congelés, comme du poulet. On peut aussi y trouver des bouteilles de gaz. Et le transport se fait à l'aide d'une brouette. Donc, on n'a pas souvent la proximité avec les stations-service. La particularité de cette proximité est la vente au détail. Par exemple, en grande surface, le papier hygiénique s'achète en lot de 6, 12, 24 rouleaux. Or, chez le Malien, on peut l'acheter en détail. Un rouleau, deux rouleaux. C'est comme les œufs. En grande surface, c'est la palette ou le paquet de 6. Chez le Malien, on peut acheter 2 œufs. J'ai aussi observé les couches à jeter pour les bébés. En grande surface, on va acheter le paquet, mais chez le Malien, on peut acheter 1, 2, 3 couches. Je n'oublie pas également les femmes ouest-africaines qui, elles, vendent des légumes, des fruits, des feuilles d'assaisonnement, de la banane, des pommes de terre, du manioc, donc. Ces commerces sont indispensables de par leur proximité et la vente au détail. Le problème qui se pose est que le Malien est musulman, donc le vendredi midi, lors de la fermeture de la boutique pour la prière, ben, les clients sont pénalisés. Et au passage, ma fille a dit « Maman, on ne dit pas chez le Malien ». Mais chez le boutiquier.
Merci beaucoup, Dean du Gabon, qui se fait rouspéter par sa fille. Hein. On ne dit pas le Malien, mais le boutiquier. Forcément, Jérôme Schmitt, bon, bah, même si avec vous, on parle beaucoup du Japon, ça nous renvoie aussi chez nous en France et à Paris, notamment, ou dans les grandes villes. L'expression populaire, on parle de l'épicier arabe du coin, l'arabe du coin, hein, puisque beaucoup des épiceries sont tenues par des émigrés nord-africains. Sauf que de plus en plus, certains mettent la clé sous la porte à cause des enseignes et puis sont remplacées par des hindous et on parle maintenant de l'hindou du coin aussi. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au Japon où on surnomme en fonction des nationalités ou pas les responsables d'épicerie, non ?
Non, c'est vraiment un espace neutre justement comme ça. Et même les employés n'ont pas le droit d'exister en termes de... On ne fait pas de remarques personnelles à un employé de combini et il ne nous en fera jamais. Et ça m'est arrivé quelques fois, je ne sais pas, en des milliers de fois, d'avoir une vraie conversation avec un employé de combini. Et je pense qu'il s'est fait engueuler dans la seconde après.
Pourquoi ? Parce qu'il est, il doit être effacé, c'est l'enseigne qui
prime.
Oui,
c'est une interface en fait. Ouais.
Ah ouais. Ouais. Invisibilité, c'est un service.
C'est juste un service. Ouais.
Donc il n'y a pas la personnalité incarnée, on ne vient pas pour aller voir un tel ou un tel. Quoi.
Non, absolument pas. Non. Ouais. Je suis certain qu'il y a des clients et des clientes qui tombent amoureuses ou amoureux d'un employé de Combini, mais je leur souhaite bien du courage pour nouer une relation.
Ouais. Ah ouais, d'accord. Alors, je propose de découvrir cette fois-ci l'épicerie Molière à Montreuil. On est en région parisienne. Pareil, on y trouve de tout, des pâtes, de la lessive, des bonbons. Et en fin d'après-midi, beaucoup de clients passent la porte. C'est le cas de Dorothy qu'on retrouve au micro de notre reporter Charlie Dupiot.
Alors, je suis venue à acheter des jus de fruits, des biscuits pour les enfants et deux, trois trucs pour la maison, quoi. J'habite dans le coin et c'est notre épicerie. Pour nous, c'est la maison. Le soir, il me manque quelque chose à la maison, je sais où j'y vais. Et ce que j'adore, c'est que je peux même envoyer mes enfants. Ma fille peut venir demain ici, il manque quelque chose à la maison, maman viendra payer. Là, par exemple, je n'avais pas ma carte, je n'avais pas d'espèces, mais je peux venir lui dire, est-ce que je peux faire des courses, je paierai plus tard. Et si je dis ici, vraiment, c'est la maison, c'est vraiment la maison.
Voilà, mademoiselle.
Voilà, mademoiselle. L'épicerie, c'est la maison, on peut même payer plus tard. Alors, au Japon, là encore, Jérôme Schmitt, dans les combinis, on peut faire crédit, on peut payer plus tard, il y a des ardoises ou pas?
Alors, je pense que le concept même de l'ardoise au Japon ne doit pas trop exister, ou alors, sauf si on va avoir des prêteurs sur gage. Je mettrais un bémol sur le fait que ce soit des grosses corporations et qu'il n'y ait pas de lien humain. Dans mon livre, j'ai essayé justement de faire un voyage comme ça du nord au sud du Japon pour un peu montrer aussi la différence de ce qu'on appelle la vie combini, c'est-à-dire cette vie quand même de quartier. Par exemple, à Hokkaido, je me souviens, donc l'extrême nord du Japon, on est quasiment au pôle nord, je me souviens d'une jeune femme qui avait ouvert un combini, qui gérait un combini comme si c'était sa propre entreprise, alors qu'elle n'était qu'une employée, au beau milieu des mètres et des mètres de neige et des congères. Chez elle, par exemple, c'est évident qu'il y a un rapport qui est très différent par rapport à un combini qui est dans la gare centrale de Tokyo.
Voilà, il y a quand même une diversité quand même dans les combinis. Après Montreuil, notre reporter Charlie Dupiot nous amène cette fois-ci dans l'épicerie Votre Marché. On est à Issy-les-Moulineaux, toujours en région parisienne, 60 mètres carrés bien remplis de fruits et légumes, vous allez l'entendre. Jamel Machala, la quarantaine, travaille ici comme employé et c'est lui qui nous accueille.
Bonjour.
Bonjour.
Alors là, on est rentré dans votre épicerie.
Merci, bienvenue.
Alors en rentrant, on voit des bonbons.
Des bonbons, des gâteaux. Chocolat.
Ça, c'est vraiment ce qui nous fait face quand on rentre. Et si on s'avance un peu vers la gauche?
Après, les rasoirs, les cadenas.
On a l'alcool aussi.
L'alcool, la bière. Ici, c'est les produits liquides, vaisselle. Après ça, c'est pour les femmes.
Les protections hygiéniques. Voilà. Et là, il y a même un congélateur.
Ouais. Il y a des pizzas, il y a des tartes au saumon, il y a des crevettes, des fruits de mer. Il y a tout.
Et qu'est-ce que vous vendez le plus?
Du jambon, le pain aussi, et de l'alcool, et le lait.
Quels sont vos horaires?
9h le matin jusqu'à 22h le soir. 7 jours sur 7.
Ah oui, ce sont de grosses journées.
Ouais. Moi, je prends le lundi, c'est ma journée de repos. Après, le collègue, c'est vendredi, c'est sa journée de repos.
Vous êtes deux, en fait, à gérer le magasin.
Ouais. Moi, c'est l'ouverture le matin. 9h jusqu'à 15h, des fois 14h30. Après, c'est le collègue. Bonjour. Ça va, chef?
Ça va.
Voilà, ça fait 7,70.
Vous prenez de l'eau?
Oui.
Pour commencer la journée, hein?
Oui.
Vous venez souvent ici?
Oui.
Et pourquoi pas dans un supermarché?
Oh, c'est facile. Ah oui?
C'est facile de venir ici?
Voilà, c'est ça.
Vous habitez le quartier?
Non.
Oui. Dans le bâtiment, ouais.
Voilà, c'est ça.
Quand il travaille, il passe ici, ouais. Parce que des fois, il travaille pendant un mois, deux mois, après, voilà, on se connaît.
Bah, merci, bonne journée.
Salut. Merci beaucoup.
À quelle concurrence vous faites face dans le quartier?
Monoprix, c'est en bas. Après, il y a Carrefour City, mais c'est un peu loin. Après, un autre Carrefour City, Franprix, mais vers Corentin, c'est le temps.
Donc c'est un peu plus loin, c'est à combien de temps à pied?
Presque 10-15 minutes à pied.
Quelle est la différence de prix entre ici et un supermarché, par exemple?
15-20 centimes.
15-20 centimes plus cher que dans une enseigne de supermarché?
Oui, ça dépend des épiceries, mais nous, c'est comme ça. C'est une épicerie, c'est un dépannage, oui. C'est pas quelque chose... pour faire les courses tous les jours ou remplir un caddie de 100 euros, 150 euros.
Oui, parce que c'est un petit peu plus cher quand même.
C'est un petit peu, ouais. Et voilà mon année.
Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
Bonne journée. Merci.
Depuis combien de temps vous travaillez dans cette épicerie ?
Si, je travaille depuis février 2015.
Ça fait 9 ans.
9 ans, ouais. Je ne connais pas un autre métier.
Avant, vous travailliez dans une autre épicerie ?
Oui, dans le 14e.
Dans Paris ?
Oh, oui, dans Paris, oui. Depuis 2002, parce qu'en France, je suis entré en France fin 2001. Je suis d'origine marocaine.
Et donc, directement, vous avez travaillé presque dans une épicerie ?
Oui, chez mon oncle. Après, voilà, mon oncle, il me dit, viens, tu travailles ici, après, je vais rester. C'est bon, je reste. Voilà, voilà, ça fait 14,85. C'est bon. Attends, je tourne dans le sac. Et voilà, 15. Merci.
Il y a combien de personnes qui viennent chaque jour ici ?
Des fois 250, il y a des fois 300, ça dépend. On a des clients aussi, des personnes âgées, on livre et passe le téléphone. Amène-moi ça, amène-moi ça. Et fait la liste, qu'est-ce qu'il manque. Après, voilà, on livre après-midi.
Mais c'est un service qui est payant, la livraison ?
Non, non. Non, parce que c'est des clients qu'on connaît, ça fait... Ils achètent ici chaque semaine, ils commandent, voilà, ils achètent 120, 130 euros, on les vend.
Et vous avez une voiture pour acheminer tout ça ?
Non, non, un chariot. Ouais. C'est pour ça qu'on ne livre pas très loin, c'est pour ça. Un kilomètre et demi, pas plus.
Mais vous faites ça pour combien de personnes dans le quartier ?
2 ou 3 par semaine. Bah, c'est des gens que tu connais déjà, ça fait longtemps. Un jour, il dit, voilà, je ne sors plus, je n'arrive pas à sortir, je n'arrive pas à marcher, est-ce que tu peux me livrer ? Je dis, oui, pas de souci. Il dit, oh, heureusement, vous êtes là, sinon on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Il y a des fois, les gens, ils n'ont pas d'argent d'ici la fin du mois. Jusqu'à, voilà, ils touchent la paye, après ils te payent. Ouais.
Vous leur faites crédit ?
Oui. Ici, tout ça, c'est des gens, ils payent chaque mois.
Ah oui, là, vous avez des petites fiches,
ouais,
avec écrit les sommes qui vous sont dues.
Voilà.
Et le nom des personnes qui vous les doivent.
Voilà. Il y en a 20, il y a 40, il y a même jusqu'à 600.
600 ?
Même 700, ouais.
Ah, vous faites confiance ?
700, ouais. Mais à la fin du mois, ils te payent. C'est ça l'épicerie. Hein. Et elle aide les gens, voilà. Toujours les petites boutiques, c'est très important de laver. Hein.
Voilà, et cette épicée d'ici les Moulineaux, Jamel Machala, rêve d'ouvrir son propre magasin, son épicerie à lui, comme il dit, pour être plus libre. À noter que sa femme et ses deux filles vivent au Maroc et il leur en visite une à deux fois par an. Elle leur envoie entre 150 et 200 euros chaque mois. C'est compliqué quand même, Jérôme Schmitt, je voulais écouter ce témoignage. Tenir un combini au Japon ou une épicerie de quartier ici dans la région parisienne, on le dit 24 sur 24, 7 jours sur 7. Métier difficile. Comment ça se passe ? Les gens résistent ? Il y a beaucoup de turnover ?
Il y a beaucoup de turnover, mais en fait, c'est assez triste socialement. Mais comme il y a aussi beaucoup d'immigrés, et que si on n'a pas de contrat de travail, notre carte de résident saute. En fait, justement, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de populations issues de l'immigration qui restent dans les combinis et qui peuvent faire toute une carrière comme ça au sein des combinis.
Donc un peu de travail subi plutôt que choisi, quoi.
Oui, c'est payé quand même au salaire minimal japonais plus 10% peut-être.
Ouais.
Mais effectivement, il n'y a pas de... À part devenir manager dans combini, qui doit être encore pire d'ailleurs qu'employé, vu qu'il y a la pression en plus des enseignes au-dessus, ce n'est pas un métier très...
Cet épicier, il compte ses sous, hein. Il fait la caisse à chaque fin de journée. Économiquement, les combinis, ça marche vraiment à fond ça...
Ah oui, c'est vraiment... En fait, quand on connaît un peu la mentalité politique japonaise, enfin mentalité, en tout cas, le Japon, c'est à la fois un pays qui est ultra-libéral, ultra-capitaliste, mais qui a quand même gardé tout un maillage très étatique sur l'aide à la personne, sur... c'est une population vieillissante, il faut que l'État soit là. Et en fait, le combini est devenu une sorte de relais indirect de l'État avec tous les services qu'il propose, et elle permet aussi de désenclaver des zones comme ça qui sont pas du tout accessibles. Donc en fait, il y a vraiment c'est un lieu qui est assez étrange, assez métis en ça. C'est à la fois du service et à la fois de l'ultra-capitalisme poussé jusqu'au bout. C'est le Japon, quoi.
C'est le Japon, comme vous dites, que vous connaissez tellement bien. Un appel au 337 64 45 51 41. On prend la direction du Cameroun.
Ouais.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
Et c'est Aurélien qui nous appelle de Yaoundé. Bonjour Aurélien.
Bonjour Laurence.
Alors, au Cameroun, il paraît qu'il y a des alimentations qu'on appelle joliment la clé perdue, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors, je vous amène dans les rues de Yaoundé. Nous avons chez nous ce type d'alimentation-là que nous appelons la clé perdue. En réalité, ce n'est pas des alimentations au sens que vous les prenez en France là-bas.
Oui.
Ce n'est pas des épiceries, mais ce sont des bars en général. On n'y vend que de la boisson exclusivement.
Oui.
Et vous n'y trouverez pas ce qu'on consomme habituellement. La seule chose, c'est que ces alimentations, entre guillemets, comme on peut dire, sont donc ouvertes 24 heures sur 24. J'en ai trouvé à Bafan et à Oumbé, à Douala, quelques-unes dans ce sens-là.
Alors, la clé est perdue, le nom, ça vient quoi? C'est parce que quand on a peut-être un peu trop picolé, on ne se souvient plus où est-ce qu'on a mis la clé quand on rentre chez soi. C'est ça ou pas?
La réalité, c'est que ces épiceries n'ont pas de porte, en réalité. Puisqu'elles ouvrent 24 heures sur 24, elles ne se trouvent pas obligées d'avoir une porte. Et du coup, nous les appelons la clé perdue.
C'est ça. Avec quoi? Des alcools qui sont pas chers, de bonne qualité ou quand on s'espère?
Non, ils proposent les mêmes services que les bars ordinaires. À la seule différence que les bars ordinaires, pendant qu'ils ferment à 21h pour ceux qui sont les plus tardifs à fermer, ce type d'épicerie, la clé perdue, eux, ils peuvent fonctionner toute la nuit. Donc, si vous arrivez au bar à 2h du matin, vous pouvez avoir une bière.
D'accord, je vois. Alors, au-delà de la clé perdue, vraiment joli titre, j'aime beaucoup. Il y a aussi des petits commerces du côté de Yaoundé, des petites épiceries qui sont ouvertes toute la nuit, le soir, en dehors des marchés ou pas?
Alors écoutez, on s'alimente à Yaoundé exclusivement dans les marchés et les supermarchés. Les supermarchés, eux, ils ont la chance de tourner 24 sur 24, sauf qu'il n'y en a pas beaucoup. Ils sont pour la plupart dans les grandes villes. Alors ceux qui sont dans les zones reculées, comme nous, on s'alimente dans les marchés. Et vous comprenez bien que ces marchés-là ne sont pas fermés, ne sont pas ouverts toute la nuit, à l'exception donc. Nous avons donc quelques petites exceptions ici. Nous avons des marchés comme le marché du Fundi ou le marché de Mbombi à Yaoundé, où vous pouvez trouver les mamans qui viennent quand même avec les vives frais du village et qui les vendent toute la nuit. Donc, elles vendent toute la nuit et au petit matin, donc, elles repartent.
Ouais, c'est ça, avec les mamans. Vive les mamans. Merci beaucoup pour votre témoignage, Aurélien. Et belle journée du côté de Yaoundé. Jérôme Schmitt, c'est joli, la clé est perdue. Ouais. comment ça se passe d'ailleurs, la législation, ce qui concerne la vente d'alcool dans les combinis?
Alors, un peu pour reprendre l'idée que j'avais juste avant, les combinis, ça a été créé pour que les gens, pour créer une sorte de fluidité de vie, pour que les gens puissent s'aliéner au travail tranquillement et manger et boire absolument à n'importe quelle heure. Et donc la législation sur l'alcool au Japon n'existe pas, c'est-à-dire que je ne dis pas que la consommation d'alcool est encouragée, mais elle est institutionnalisée, c'est-à-dire que une fin de journée, la plupart du temps, quasi tous les jours, les employés vont aller boire trop avec leur responsable. Avec leur responsable. Mais c'est presque un devoir. Et c'est le moment où on a le droit de dire ce qu'on pense à son responsable.
Oula, et le lendemain, on ne le regrette pas le lendemain. Ah
non,
oui, c'est ça.
C'est institutionnalisé. Et la seule insulte qu'on puisse faire, c'est de ne pas aller boire avec le responsable.
Ah d'accord.
Il y a des endroits pour ça, et c'est le responsable qui paye, et c'est une note de frais. Et c'est Donc voilà, donc l'alcool fait partie intégrante de tout ça. Ouais.
Un autre appel du côté du Sénégal, c'est Diane Estelle qui nous appelle. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Diane Estelle. Alors vous, je crois savoir, vous préférez aller plutôt en grande surface que dans les petites boutiques, c'est ça, non?
Oui, effectivement, je préfère aller dans les grandes surfaces parce que il y a des produits qui vraiment laissent à désirer quand tu les achètes dans les boutiques, comme on dit, de quartier. Il y a la salubrité, c'est ça en fait qui cause problème. Surtout quand tu dois acheter du pain, c'est pas trop propre. Il n'est pas conseillé de l'acheter à la boutique. Comme à un moment donné, pendant la Covid, l'État avait demandé à tout le monde d'acheter du pain dans les boutiques parce que c'est pas propre. Mais voilà.
Ouais.
Après, à un moment donné, ils ont repris les mêmes habitudes et voilà, les gens ont continué à acheter du pain à la boutique et on voit que c'est pas, ça laisse à désirer.
Ouais, je comprends bien. Ouais.
Ouais.
Merci beaucoup. Désolée, la ligne n'est pas très très bonne, hein, mais on a bien compris votre propos, Diana Estelle, du côté du Sénégal. Très rapidement, la qualité des produits dans les combini laisse à désirer ou ça va ?
C'est standardisé, donc moi c'est pour ça que j'y mange pas.
Mais, c'est pas bon.
Mais par contre, c'est d'une propreté vraiment inattaquable, ça c'est sûr. Mais c'est pas très passionnant, non.
Un dernier appel d'Audrey à Kinshasa en RDC. Bonjour Audrey. Vous êtes avec nous, Audrey ?
Ah, allô, bonjour.
Oui, bonjour Audrey. Alors, chez vous, il paraît que les boutiques, on vous les appelait quoi ? Les Ligablo, c'est ça ?
Oui, voilà. Chez nous, en RTC, on appelle les petites boutiques du coin Ligablo.
D'accord. Et je crois savoir que ces boutiques, elles font crédit aussi ?
Elles font pas crédit comme tel, mais elles donnent des petits prêts. Donnent des petits prêts, la monnaie locale, 1000 francs, 1500, 2000, qui équivaut à moins d'un dollar, quoi.
D'accord, ok. Et alors, je crois savoir que ce que vous aimez bien quand même dans ces petites boutiques, c'est que, ça papote, on apprend tout sur le voisin, la voisine, tout ce qui est commérage, tout ça. Vous aimez bien ça ?
Oui, non, parce qu'après, c'est un coin de commérage, ça c'est sûr, dans les quartiers, mais aussi c'est un point de localisation, parce que dans chaque avenue, il y a au moins une boutique pareille, et si vous cherchez quelqu'un, vous pouvez juste dire, dès que vous arrivez devant un Ligablo, vous m'appelez, ou bien vous demandez au Ligablo chez telle personne, parce que ça sous-entend que les gens qui vendent dans ces Ligablo, ce sont des personnes qui maîtrisent bien les quartiers, l'avenue, autre.
Oui, c'est ça, un lieu d'orientation. Merci Audrey, belle journée du côté du Kinshasa en RDC. Jérôme Schmitt, pareil, les combini, c'est un lieu de repère aussi dans...
Alors, le début du livre commence
c'est
comme ça justement.
Ouais, on se retrouve...
C'est un lieu de repère au sens où le système d'adressage japonais est totalement différent du système d'adressage occidental, puisqu'il n'y a pas de nom de rue. Mettons qu'à Tokyo, je ne sais pas, il y a quelques grosses avenues qui ont un nom, mais il n'y a pas de nom de rue, il n'y a pas de numérotation, on ne peut pas dire au 32 avenue Meiji-Dori. Le principe de la numérotation, c'est qu'on donne trois chiffres. Le premier chiffre, c'est le district. Ensuite, le deuxième, c'est le pâté de maison. Et ensuite, le troisième, c'est le numéro de l'immeuble du pâté de maison. Tout ça a été plus ou moins lissé ces dernières années, mais au début, c'était selon l'année de construction de l'immeuble. Donc, si vous voulez, c'était impossible de s'y retrouver. Donc ensuite, les gens se sont dit, on va trouver un lieu de repérage. On s'est dit, tiens, les combini. Sauf qu'avec la multiplication des combini, vous pouvez dire, rendez-vous à telle marque de combini, à tel carrefour. Et parfois, dans le même carrefour, il y a trois fois la même marque de combini. Donc, normalement, on a la chance des débutants, on se retrouve, mais c'est pas si simple que ça.
Le petit jeu pour se perdre ou se retrouver. Changement de continent, je vous propose d'aller au Québec, où les commerces de proximité portent un nom plutôt charmant aussi, on les appelle les dépanneurs.
8 milliards de voisins.
C'est vraiment quelque chose qui crée la proximité. C'est être ouvert à la rencontre de l'autre sans aucun a priori.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins.
Même si géographiquement on est effectivement dispersés,
on existe ensemble.
Les dépanneurs, c'est une tradition qu'on retrouve uniquement d'ailleurs dans cette province canadienne. Et pour en parler, nous sommes avec Pascal Gricolas, la correspondante de RFI au Québec. Bonjour Pascal.
Bonjour Laurence.
Alors, est-ce que vous pourriez nous faire une petite visite guidée d'un dépanneur ?
Bien sûr, suivez-moi. J'ai l'habitude de fréquenter le dépanneur qui se trouve à côté de chez moi. J'y vais presque tous les jours. J'ai même déjà acheté des œufs à Noël quand tout était fermé ailleurs. Généralement, il s'agit de magasins plutôt de taille modeste, mais très chargés en marchandises. Donc attention dans les allées de ne rien renverser, parce que l'espace est maximisé. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce commerce ouvert tôt le matin et tard le soir ? Surtout de la bière, des boissons alcoolisées, des cigarettes et bien sûr des billets de loto ou de jeu. Trois quarts des produits vendus dans les DEP, le petit nom du dépanneur, tournent autour de ces marchandises.
Alors Pascal, qu'est-ce qui distingue un DEP, comme vous dites, un dépanneur, d'une petite épicerie ?
Il s'agit en fait d'une tradition héritée d'une ancienne législation des années 70. À cette époque, les magasins fermaient le soir et le dimanche, sauf les commerces de moins de 3 employés qui pouvaient ouvrir 24 heures par jour. C'est ainsi qu'un Montréalais a eu l'idée d'ouvrir un premier dépanneur il y a 50 ans. Ce modèle s'est littéralement multiplié ensuite aux quatre coins du Québec. Dans les années de gloire, on pouvait parfois en retrouver littéralement à chaque intersection. Certains sont de véritables institutions, surtout dans le centre-ville de Montréal. Des institutions que les gens branchés se font un honneur de fréquenter. Sauf que ce petit commerce indépendant souffre de la concurrence des supermarchés. Ces derniers ont aussi le droit désormais d'ouvrir tard le soir et les fins de semaine. Et ils disposent de bien plus de marchandises que les dépanneurs locaux. Et à un prix, bien sûr, plus avantageux.
Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin des dépanneurs ou pas ?
Difficile à dire. Même si leur nombre a chuté de près d'un tiers depuis les années 90, des milliers tiennent encore le coup. Certains se diversifient. Ils proposent par exemple des plats prêts à manger, faits sur place. Et surtout, leurs propriétaires ont changé. Pour beaucoup de personnes récemment émigrées au Québec, acheter un dépanneur permet de se lancer en affaires. 35 à 40% des membres de l'association qui regroupe ce genre de commerce sont d'ailleurs originaires d'Asie. Les grandes chaînes de distribution ont aussi investi le secteur, souvent en s'associant à une station essence. L'un de ces géants, Couche-Tard, compte ce genre de magasin dans plus de 200 pays et il a failli mettre la main sur Carrefour l'an dernier. Il s'agit de commerces plus standardisés que les dépanneurs indépendants, certaines mauvaises langues diront mieux entretenus, mais qui vont peut-être permettre de poursuivre cette tradition bien québécoise.
Merci beaucoup Pascal Guéricola, la correspondante de RFI au Québec. Jérôme Schmitt, vous connaissez vous la tradition des dépanneurs québécois ou pas ?
Oui, je suis allé quelques fois à Montréal, donc oui.
Et autre ambiance, hein, pour le coup,
chose, ouais.
Même si les combinis servent aussi de...
Ça sent souvent l'herbe devant les dépanneurs, assez peu devant les combinis.
Mais là encore, là-bas aussi au Québec, les commerces sont repris par des personnes originaires d'Asie aussi. Hein.
Oui, c'est un peu... Enfin, je pense que c'est assez commun à tous les pays. Hein. C'est vraiment le micro-commerce qui permet de se lancer et de créer une activité. Ouais.
Alors là, notre correspondant disait « ça va résister, c'est une tradition qui va peut-être résister ou pas ». Pour vous, les combinis, même dans, comme vous le dites, le Japon ultra-moderne, le Tokyo ultra-économique ou autre, restera ?
En fait, il y a une image qui est assez visuelle, qu'on peut facilement imaginer. Après le dernier grand tsunami au Japon, donc au nord de Tokyo, vers Sendai, où tout a été rasé, mais littéralement tout, sur des kilomètres et des kilomètres, il y a eu des milliers de morts, etc. La première chose qui a rouvert, c'est un combini. Et ça a été rouvert en 3 semaines. Ça a été fait dans un préfab. C'était un énorme combini qui n'existait même pas avant. D'ailleurs, ils l'ont fait. Ils ont même mis du temps à mettre une enseigne. Et en fait, c'est vraiment c'est essentiel à la vie. Donc, c'est, je dirais même à l'inverse, s'il ne reste qu'une chose, ce sera le combini.
Ah, vraiment ?
Oui, sincèrement, oui, sans exagérer.
Et en quoi ? Parce que c'est, quelque part, ça incarne aussi le Japon d'avant, le Japon d'aujourd'hui, le Japon de demain.
Oui, je crois que c'est vraiment c'est un carrefour de génération, un carrefour de service, un carrefour d'identité. C'est vraiment, c'est à la fois ce que je vous disais, c'est à la fois un lieu neutre, mais aussi un lieu neutre qui accepte à la fois toutes les différences, toutes les possibilités. En fait, c'est vraiment, c'est un nœud gordien, quoi, en fait, qui ouvre pas mal de possibilités. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin et que c'était intéressant. C'est qu'en fait, en regardant le Japon, en s'asseyant dans des combinis, on comprend beaucoup de choses sur la société contemporaine.
Sauf qu'on regarde bizarrement ou pas le touriste étranger qui déboule dans le combini ou
non, vous êtes, justement. Vous êtes... ouais, non, c'est ça reprend. Non, c'est même d'ailleurs c'est souvent le seul endroit où on croise des étrangers, des touristes étrangers, et c'est le seul endroit où d'ailleurs tout est traduit en japonais, en français, en anglais pardon, ouais. Ce qui est très très rare, ce qui n'arrive quasiment jamais, où on peut faire du ce qu'on appelle du point and click, c'est-à-dire on montre et on parle pas, et tout est faisable en fait. Tant qu'on demande pas, en fait. C'est un lieu qui a été programmé pour répondre à tant de questions. Et tant qu'on n'invente pas une question dont on n'a pas programmé la réponse, tout ira très bien.
Et ben un jour, on utilisera peut-être ChatGPT dans les combinis. Merci beaucoup pour ce voyage passionnant et bon retour bientôt, j'imagine, au Japon. Merci à vous. Je rappelle votre titre, Jérôme Schmitt, La vie combini. C'est aux arènes Comment. Merci. Beaucoup.
Merci.
Allez, ben on se quitte avec Tommy Drummer Queen et ce titre. Ponomi sur RFI.
Ni jua penzi nitakalokupa wala ujali ona.
Tommy Dormer, Queen et Pomoni, un titre retrouvé sur la playlist de RFI. Merci à toute l'équipe, Romain Dumas, Juliette Brault, Delphine Cachin et Tom Malcry. On se retrouve demain à la même heure pour 8 milliards de voisins et de voisines. On parlera des petits et des gros mensonges. Est-ce qu'on doit se dire toute la vérité, rien que la vérité? On vous attend demain. Belle journée.